Daniel, c'est pour moi que vous êtes revenu? M'a demandé le commandant quelques minutes plus tard. Nous avions fini le ménage et nous rapprochions de petites tables pour former un rectangle en vue de la réunion de service. L'autre enquêteur, le sosie de George Clooney, avait pris le relais pour le nettoyage des taches de sang sur la moquette. Ça l'occupait, tout en lui permettant de rester à portée de voix. Elle a continué. Parce que j'adorerais discuter avec vous. Je suis là pour la réunion de service, ai-je répondu d'un air pincé en insérant la dernière table. Karen m'a donné l'autorisation d'y assister. Vous vous souvenez qu'il y a 25 ans, votre père a descendu toute votre famille. Elle me cherchait. J'avais beau le savoir, j'étais quand même obligée de prendre sur moi pour ne pas céder à la provocation. J'ai aperçu quelques mouchetures de sang sur la fenêtre au bout de la salle, alors je suis allée chercher le produit pour vitre et je m'y suis remise. Pendant 25 ans, j'avais trouvé que je m'en sortais pas trop mal. J'avais réussi mes études, j'avais décroché un boulot que j'adorais, et 360 jours par an, j'étais plutôt solide. Je ne me repassais pas indéfiniment les événements d'une certaine nuit, je n'exhumais pas de vieilles photos de famille, je ne repensais pas à cette infecte odeur de whisky dans la laine de mon père, et je ne faisais pas une fixette sur le poids d'un 9 mm dans la main d'une enfant. Je m'occupais de mes gamins, et je prenais bien soin de ne pas regarder en arrière. Jusqu'à cette fichue semaine, une fois par an. Je me sentais submergée par ma famille ces derniers temps. Ébouillantée par des souvenirs que je mettais un point d'honneur à oublier. Et voilà que j'étais emportée par un flot de nouvelles informations. Ma mère voulait quitter mon père. Elle avait rencontré un gars bien. Et si mon père les avait tous massacrés à cause de sa liaison plutôt que de ma rébellion? Je ne savais pas. Et pour la première fois, j'avais désespérément envie de parler de mon passé avec quelqu'un. Je m'étais tournée vers le shérif Wayne. Je voulais lui demander à quelle heure exacte il était arrivé chez moi ce soir-là. Était-il possible qu'il se soit réellement écoulé 2 heures et demie entre ma conversation avec ma mère et le premier coup de feu de mon père? L'agent d'accueil de la police m'avait informé que le shérif Wayne était décédé depuis 2 ans, mort dans son sommeil. J'arrivais pas à le croire. Le shérif Wayne était censé vivre éternellement. Il me devait ça. Désormais, il n'y avait plus que Tantélan et moi pour se souvenir du sourire de ma mère, des gloussements de ma sœur, du sourire niais de mon frère. Ça ne suffisait pas. Il me fallait plus de gens, il me fallait plus d'informations. Parlez-nous de Lightfoot, m'encouragea Didi derrière moi. Je rêve où il a un sacré béguin pour vous. J'ai arrêté de frotter les fenêtres et je me suis retournée pour regarder l'enquêtrice en face. Andrew et moi ne sommes pas et n'avons jamais été ensemble. Nous avons eu un seul et unique rendez-vous qu'il a passé à me cuisiner sur mon père. Je suis peut-être un peu démodée, mais je ne trouve pas ça spécialement excitant de parler de mon parent homicide. Ça a été le début et la fin de notre relation personnelle. Il ne s'intéresse qu'à votre père? D'après ce que j'ai compris, je représente une sorte de défi céleste. Si Andrew obtient que je pardonne à mon père et que j'ouvre mon cœur à la lumière, et ça voudra dire qu'il est capable de convertir n'importe qui. Un point pour l'équipe des gentils. Vous ne voulez pas pardonner à votre père? Non. Le détester me convient très bien, pas besoin de retrouvailles collectives dans les stratosphères de l'ésotérisme. Didi a eu l'air étonné. C'est ça le projet de Lightfoot? Organiser une rencontre dans les espaces interstitiels? C'est l'idée générale. Si vous voulez des détails, il faut lui demander à lui, pas à moi. Je ne suis pas cliente de sa cam. Est-ce que Greg a eu plus de chance? La transition s'était faite tellement en douceur que j'ai failli répondre sans réfléchir. Je me suis retenue au dernier moment. Greg et moi sommes amis. Des amis et plus à l'occasion? On ne peut pas dire. Des amis qui sortent boire un verre? Des amis qui s'ouvrent le cœur? Des amis qui partagent une pizza de temps en temps? Ce travail est usant. On est trop vidé pour sortir après le boulot. Vous êtes parti avec Greg aujourd'hui, a répondu l'enquêtrice d'une voix égale. Et vous aviez l'air plutôt à l'aise. La remarque m'a prise au dépourvu. Mais évidemment, la police interrogeait tout le monde dans l'hôpital et ce n'était pas comme si Greg et moi étions partis en catimini au milieu de la nuit. Un paquet de gens pouvaient nous avoir vus partir ensemble et l'avoir signalé. Greg m'a raccompagné, ai-je reconnu. Il est très attentionné. Il vous a reconduite chez vous? Il m'a conduite chez lui. Plutôt intime, là encore. Nous avons parlé. Il sait que cette période de l'année est difficile pour moi. Ça doit être agréable de pleurer sur son épaule, a observé le commandant. Ça a été plus fort que moi. Il est un peu jeune pour vous, vous ne trouvez pas? Aïe, a dit le commandant, manifestement amusé de ce coup de griffe. Il paraît que Greg vous court après depuis des années. Il a fini par franchir la ligne d'arrivée, Daniel ? Je n'ai même pas daigné répondre. D'autant plus que je n'avais aucune envie de repenser à ma matinée avec Greg. Des années que je le repoussais, et voilà que le jour où j'allais enfin chez lui, il me rejetait. « Écoutez, me suis-je impatienté, je ne vois personne. Je m'occupe des enfants et je laisse ma vie personnelle de côté, ça s'arrête là. »« Je pense pas. Comment ça ?» Didi a penché la tête, m'a dévisagé avec curiosité. Deux familles liées à ce service ont été assassinées presque 25 ans jour pour jour après la fusillade qui a anéanti votre famille. Et hier soir, l'enfant dont vous vous occupiez le plus étroitement est morte par pendaison. Vous croyez toujours que ça n'a rien à voir avec vous ? J'ai senti mon cœur s'emballer, mon visage blêmir. Mais mon passé est derrière moi. Ma famille a disparu. Qui pourrait encore me vouloir du mal ?
Bonne question, a-t-elle dit d'un air songeur.
Qui pourrait encore vous vouloir du mal ? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Tout ça ne pouvait pas être lié à moi. Je n'avais pas le pistolet cette fois-ci, avais-je envie de lâcher. Je vous jure, je n'avais pas le pistolet. Il faut que je consulte un dossier, ai-je marmonné avant de quitter précipitamment la salle commune. Je ne pouvais plus rester en face des policiers. Je ne voulais pas qu'ils lisent mon sentiment d'horreur sur mon visage. Je ne voulais pas qu'ils interprètent mal mes remords. Un quart d'heure plus tard, le personnel se rassemblait dans la salle commune. Il était près de 23h30, tout le monde était en retard. Rien de surprenant avec les derniers événements. L'ambiance était encore électrique dans le service. Jamais dans mon souvenir, nous n'avions traversé autant d'épisodes critiques les uns à la suite des autres. Jamais dans mon souvenir, nous n'avions tous été aussi fébriles que les enfants. J'étais encore dans les quartiers administratifs, d'où je regardais par la fenêtre d'observation. Les policiers s'étaient enfin éclipsés. J'aurais pu rejoindre les éducateurs à la table, mais d'un seul coup, je me sentais gênée. Le commandant m'avait mis des idées dans la tête, comme quoi tout était peut-être de ma faute, comme quoi j'étais peut-être responsable de la mort de Lucie. Je me suis rendu compte que j'attendais Greg. J'attendais sa présence rassurante. 5 minutes s'étant encore écoulées sans qu'il arrive, je suis partie à sa recherche. En remontant le couloir, je suis passée devant des enfants endormis dans divers recoins, des chambres plongées dans le noir et d'autres où c'étaient les grandes illuminations. Je ne voyais pas Greg, mais j'ai entendu sa voix grave si reconnaissable dans la dernière chambre à droite. J'ai jeté un œil. Greg était assis par terre, jambes tendues. Il ne m'avait pas remarqué, concentré qu'il était sur un petit garçon aux cheveux dorés tout recroquevillé sur lui-même. Greg lui caressait la tête et parlait d'un ton léger pour l'encourager à se dénouer, mais l'enfant ne voulait rien savoir. Le nouveau patient, ai-je deviné. Celui qui a poignardé sa mère le matin. Il était replié sur lui-même, comme pour s'isoler du monde. C'était pas possible qu'une chose pareille lui arrive. Cette chambre inconnue, ce lieu inconnu, ces gens inconnus qui n'arrêtaient pas de lui parler. « Maman, » a-t-il murmuré, « je veux ma maman. » Mon cœur s'est serré. Cela avait été les premiers mots de tant d'enfants au fil des années, même des gamins que leur mère ouait de coups. « Je sais, » lui a assuré Greg.
« Emmène-moi à la maison. »«
Je peux pas, bonhomme. »«
Tu pourrais rester avec moi, comme on a déjà fait. »
Je me suis figée. Comme ils avaient déjà fait. J'ai discrètement reculé pour sortir de leur champ de vision.
« Il va falloir que tu restes ici un moment, bonhomme.
On va travailler avec toi pour t'apprendre à te calmer, à maîtriser ces colères que tu fais, jusqu'à ce que tu te sentes plus fort, mieux dans ta peau. T'inquiète pas, c'est chouette ici. On va bien s'occuper de toi. »«
Maman. »
Greg n'a pas répondu.
« Je lui ai fait du mal, » a murmuré l'enfant. « J'avais le couteau. Il fallait que je m'en serve. Obligé. »
Il disait ça avec mélancolie. Greg a continué à se taire, laissé le silence travailler pour lui.
« Je suis un méchant, méchant garçon, »
a repris l'enfant, si bas que je l'entendais à peine.
« Personne n'aime les garçons aussi méchants que moi. »«
Tu as appelé les secours. C'était drôlement bien pensé, Evan. Un bon réflexe. »«
Le sang est poisseux, chaud. Je savais pas qu'elle saignerait comme ça. Je crois que j'ai abîmé le canapé. »
D'un seul coup, il a fondu en larmes.
« Greg, tu crois que maman va me détester ? Appelle-la. Il faut que tu l'appelles. Dis-lui que je suis désolée. C'était un accident. Je savais pas qu'elle saignerait comme ça. Je savais pas.
Sa voix s'élevait dangereusement. Son agitation allait croissant. Je suis entrée d'un pas résolu dans la chambre au moment où Greg disait « Evan, je veux que tu prennes une grande inspiration.
J'ai abîmé le canapé.
Evan, je veux rentrer chez moi, chez moi, chez moi. Je serai gentille cette fois-ci, promis, je serai gentille. Plus de couteau. Mais laisse-moi rentrer chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. »
Il a roulé loin de Greg et s'est rué vers la porte. Je l'ai arrêté in extremis en écartant les bras. Il a rebondi sur moi comme une balle en caoutchouc et percuté le mur d'à côté. Au lieu de faire une seconde tentative d'évasion, il s'est tapé la tête contre le placo et un cri de frustration lui a échappé.
« Benadryl ?» ai-je suggéré sans bruit à Greg. Il m'a fait signe que non. Réaction paradoxale. « Va chercher le lorazépam. » Je suis partie en courant dans le couloir pendant que Greg insistait de sa voix grave et ferme. « Evan, écoute-moi, bonhomme. Regarde-moi, bonhomme. Evan. » Le temps que je revienne, du sang dégoulinait sur le nez d'Evan à cause d'une coupure qu'il avait au front et Greg brandissait son portable pour capter son attention. « Evan, Evan, regarde-moi. On va appeler ta maman. On va l'appeler tout de suite, d'accord ? Mais regarde-moi, Evan, regarde ce que je fais. » Greg composait un numéro sur son téléphone. Evan a arrêté de se taper la tête le temps de regarder et son corps tremblait sous l'effort qu'il faisait pour rester immobile. Les yeux rougis, le regard vitreux, les joues pâles, les poings crispés, le gamin était dans un état second. La plupart des enfants ont besoin de quelques jours pour se remettre de la surcharge émotive que représente un épisode psychotique. Evan, en revanche, semblait déjà prêt pour le deuxième round. De nouveau cette sensation. Un courant d'air froid, comme un nuage noir qui passe devant le soleil. J'ai regretté d'être venu ce soir. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Encore pire que la veille quand nous avions retrouvé le corps de Lucie pendu au plafond. Un standardiste avait décroché à l'autre bout du fil. « Victoria Oliver », a demandé Greg. Evan a entamé une danse, une lueur farouche dans ses yeux bleus, et le sang qui gouttait au bout de son nez maculait sa chemise à rayures bleues.
« Maman, 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 maman. »«
Prends ton médicament », a dit Greg au moment où une voix féminine résonnait dans le combiné. « Victoria ?»«
Oui ?»«
Médicament, Evan. » Evan s'est brusquement retourné vers moi et a failli me faire tomber en arrière. Je lui ai abandonné le gobelet en papier. Il a gobé le lorazépam et s'est remis à danser en regardant le téléphone de Greg. « Victoria ?» a répété Greg en calant le téléphone contre son oreille. « C'est Greg, je suis avec Evan. Je me disais... Il a besoin d'entendre que tu vas bien. Et je me disais que ça te ferait plaisir de savoir qu'il va bien. Tout roule ici. » Je n'ai pas pu entendre la réponse. Evan virevoltait, tel un derviche tourneur, cheveux blonds, chemise bleue et sang rouge. Un souffle d'air glacial qui tourbillonnait le long de ma colonne vertébrale, bruissait sur mes bras. « Le service de pédopsychiatrie est au 7e, expliquait Greg. « Oui, c'est une unité fermée. Soins intensifs. C'est un bon établissement, Vic. Ça va aller. »
Vic ? Comment Greg avait-il su où joindre la mère d'Evan ? Ou qu'elle prendrait son appel ? Contacter un parent qui vient d'être poignardé par son enfant n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Sauf si l'on sait que le parent est prêt à répondre à un tel appel et qu'il est assez solide dans sa tête pour l'affronter. Sauf si l'on connaît le parent. J'avais froid, très froid. J'étais prise de tremblements incontrôlables. Greg au téléphone ? Est-ce que tu peux... Tu es partante ?
Juste une seconde.
Je ne pense pas qu'il en supportera beaucoup.
Non, il faut que tu prennes soin de toi. Nous, on va s'occuper de lui, Victoria.
Vic, fais-moi confiance sur ce coup-là. Evan a besoin de toi en bonne santé. Voilà ce dont ton fils a besoin.
Maman, 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 maman.
Geignait Evan sans cesser de tourner. Greg lui a tendu le téléphone.
Une phrase, Evan. Écoute la voix de ta maman. Dis-toi qu'elle va bien.
Dis-lui que tu vas bien et ce sera fini. Evan s'empara du téléphone, il le colla à son oreille. Il sourit, radieuse seconde de soulagement en reprenant le contact avec sa mère. Sa posture se détendit, il reposa les pieds par terre. Et là, avant que je puisse faire un geste, avant que Greg puisse lui arracher le combiné,
« La prochaine fois, je t'aurai, salope !» a menacé Evan. « La prochaine fois, je te charcuterai le cœur !»
Il a lancé le téléphone par terre et s'est jeté contre le mur pour se taper violemment la tête.
« Oh, Evan !» a dit Greg avec lassitude.
Je suis partie en courant chercher une autre dose de lorazépam.